Allez, on passe donc au Gabon, où là, on avait un homme qui s'appelait Patrick Assoumou Ehi, alias Coach Capello, qui est soupçonné d'avoir abusé de centaines, voire de milliers de jeunes joueurs sur plus de 25 ans. Ce gars-là était connu dans tout le Gabon. Alors, il faut savoir que le Gabon, c'est un petit pays, il y a à peine 2 millions d'habitants, avec beaucoup d'argent. Et l'ancien coach, donc il était anciennement coach des U17, donc l'équipe nationale des moins de 17 ans gabonais. Ces actes auraient été couverts par la Fédé, où certains dirigeants abusent également de jeunes joueurs, et notamment aussi au tournoi de Montaigu en France. Ce tournoi est le plus grand tournoi mondial de jeunes pour être repéré par des clubs et semble être une plaque tournante qui permettait et stimulait les pires choses en promettant et en faisant miroiter des carrières en Europe, justement. Évidemment, il a sa place à la direction technique nationale et est un responsable du fameux Camp Turc, donc une académie, l'Académie Club de Libreville. Libreville, c'est la capitale. Un club de foot pour jeunes. Vous voyez, c'est facile dans ces pays-là de. Tu montes un petit club, tu fais payer les gens, tu fais miroiter des choses, et puis en fait, voilà, on ne demande rien, t'es un peu connu. Connu. Il a toujours donc à sa disposition, entre guillemets, en permanence et chaque année depuis des décennies, il a au moins entre 50 et 100 petits garçons sous ses ordres directs, que ce soit dans l'académie, dans différents clubs dans lesquels il intervient ou au sein de la sélection nationale. Donc c'est pour ça qu'on parle de milliers, c'est pas une blague, c'est vu les témoignages concordants d'énormément de gens au Gabon, a priori on est certainement voilà, sur plusieurs centaines, voire peut-être des milliers de victimes. Le gars est alcoolique, fumeur, manipulateur et beau-parleur. Il en étalait avec des repas, etc. Faisait boire les enfants. Il ciblait les garçons pauvres et vulnérables et peu entourés. Par exemple, il faisait même appeler les garçons, les petits garçons, par des joueurs internationaux en activité, donc des stars dans l'esprit des petits. C'est comme si, voilà, d'un coup, il appelle Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, il t'appelle, il te dit oui, c'est normal, vas-y, accepte de te faire sodomiser par coach Capello parce que vraiment c'est quelqu'un de bien et puis c'est normal, moi aussi je suis passé par là. Voyez un peu le système, comment il s'auto-entretient. On citera notamment Stéphane Guema, un des internationaux parmi ces gens qui voilà qui a téléphoné à un jeune garçon sur la demande de Capello pour le convaincre de se laisser faire. Les enfants qui refusent sont appelés par lui après et dénigrés pour toujours, homme de peu de foi. Alors vous allez comprendre ce qu'est la foi dans son esprit, etc. Il gardait toujours toutes les licences physiques des enfants à son domicile. Oui, c'est un moyen de pression. Les joueurs violés, y compris en équipe internationale du Gabon, y compris les binationaux, reproduisent et glorifient le schéma Capello. Alors pas tous, mais il y en a une partie qui consomme à leur tour des enfants. Il a renommé sa maison le Jardin d'Éden, où il va dire aux petits garçons, qu'il appelle les putes vierges, son fameux, ça c'est vraiment sa grande théorie fumeuse et mystique, il te manque la présence d'esprit, mon petit, et son je veux te drep. Alors drep, en gabonais, ça veut dire te sodomiser, enfin te faire l'amour, te baiser. Pour jouer, il va falloir donner la masturbation, la fellation, le rapport sexuel. Il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, c'était la condition pour rester dans l'équipe nationale. Capello a violé tant de garçons qu'il allait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux. Il profitait de leur pauvreté, c'est la réalité du football au Gabon depuis des décennies, mais personne ne peut arrêter le système, les prédateurs sont trop nombreux. Donc ça, c'est les témoignages de victimes et de gens locaux et d'insiders. Mais il ne serait pas le seul, il fournissait des enfants à d'autres personnes importantes du football gabonais. D'après les locaux, le nombre de notables impliqués est vraiment important. Capello était clairement un nœud du réseau gabonais en tant que fournisseur d'enfants pour des abus sexuels. Aujourd'hui, cet homme est en prison. Cela avait été un peu dénoncé en 2018 sur les réseaux sociaux par l'ancien international Shiva Star Nzigu, qui avait joué à FC Nantes, parlant de pratiques mystico-spirituelles et de sacrifices où lui-même avait été abusé. Le président de la fédération, Pierre-Alain Mougenghi, avait alors déclaré devant les journalistes que la pédophilie était un gros problème du football gabonais. Et puis, une fois que t'as dit ça, et rien ne se passe, ni au niveau de la Fédé, ni au niveau de la CAF, qui est donc la Confédération africaine de la FIFA, ni au niveau de la FIFA. Je vous ai mis une carte au début de l'article pour vous identifier les différentes confédérations, on va dire les sous-ensembles de la FIFA. En 2019, il y avait aussi eu une affaire d'abus et d'harcèlement sur des filles, cette fois chez les U20, lors de la Sup Lady Cup 2019, notamment un tournoi dans le sud de la France. Je cite: Des footballeuses gabonaises des moins de 20 ans m'ont dit qu'elles ont subi des attouchements de la part de certains entraîneurs et surtout de femmes aussi. Trois filles m'ont affirmé avoir subi l'influence d'une femme qui leur a dit que si elles acceptaient de se faire toucher, elles avaient la possibilité de changer le classement du coach pour que ces filles-là jouent notamment les matchs régulièrement. Suite à l'enquête parue dans The Guardian, Patrick Assoumouéi a été arrêté par les autorités gabonaises. De nombreux joueurs parlent ouvertement et confirment les accusations. Depuis, un autre coach, Émule Dassoumouéi, Orphée Mikala, a été suspendu par son club pour suspicion de pédophilie et est recherché par la police. D'autres histoires ressortent du coup, avec le coach pédophile Colo du club USM de Jean-Boniface Asselet qui s'était fait tabasser par des jeunes victimes. Donc le club USM appartient à Jean-Boniface Asselet, voilà, et donc le coach pédophile s'était fait tabasser par les jeunes victimes. Accusé et condamné pour de tels actes, il avait été directement réintégré par la fédération à sa sortie de prison. Ah, super. Beaucoup de coachs pédophiles s'y sont succédés, avec notamment un Camerounais, M. Baoken, qui aurait été un peu initié, qui aurait un peu initié tout cela. De nouveaux témoignages concernant d'autres coachs de football et aussi un maître de taekwondo, le maître Shaka alias Martin Avera, depuis plus de 25 ans dans ses deux clubs sur des enfants de 10-12 ans, l'école des champions et Hyundai Taekwondo à Libreville. Ce sont des agressions sexuelles par menaces et contraintes physiques. Il a directement été suspendu par la fédération, mais il faudra regarder les non-décisions des dernières décennies. D'autres sports semblent être concernés au Gabon, handball, judo, tennis et taekwondo donc au plus haut niveau. Le tennis notamment avec Dandy Poati, un entraîneur de l'équipe nationale, qui a été écroué pour viol sur des fillettes de 6 à 10 ans pendant plus de 20 ans. Je vous ai mis le lien sur cet entraîneur de tennis. Donc on parle bien que des fédés là, hein. Après s'il y a des liens avec les clubs, c'est parce que les gens sont aussi liés à la fédé, hein. On parle même pas de, entre guillemets, la pédophilie banale qui peut arriver dans un club. Voilà, là c'est des systèmes de couverture. Le Gabon, secoué par des révélations sur les viols commis par un entraîneur. Donc près de 30 ans à sévir dans le milieu. Je cite, il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, c'était la condition pour rester dans l'équipe nationale. Capello a violé tant de garçons qu'il allait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux, témoigne l'une des victimes auprès du média britannique. Il profitait de leur pauvreté, c'est la réalité du football au Gabon depuis des décennies, mais personne ne peut arrêter le système, les prédateurs sont trop nombreux. De son côté, la fédération gabonaise, donc la FEGAFOOT, dit qu'elle n'a jamais eu connaissance ou enregistré de plainte relative aux actes dénoncés. Ah! À notre connaissance, Patrick Assoumouyi n'a pas d'équipe et n'est nommé pour diriger aucune équipe nationale au Gabon. Ah bah oui, bien sûr. Les joueurs que vous avez rencontrés devraient également envisager de nous contacter afin d'enquêter avec diligence, car nous confirmons que de tels faits doivent être dénoncés devant les tribunaux et les instances judiciaires compétentes, a fait savoir la fédération. Vite, vite, donnez-nous la liste des gens qui balancent, vite, vite. On peut également parler de coach Mourinho à Port-Gentil, qui est la capitale, on va dire le port du Gabon, qui allait débaucher les gamins du Pôle Espoir en les obligeant à avoir des relations avec des prostituées. Et après, quand ils avaient un peu pris l'habitude de boire et de se faire sucer par des prostituées, il leur bandait les yeux. Et là, en fait, c'est lui qui mettait une perruque et du rouge à lèvres et il leur faisait des fellations pour pas qu'ils se rendent compte que c'est lui. Extraordinaire. Et tant d'autres. On parle de Mandarano, on parle de Boakin, donc on parlait tout à l'heure, qui a fait semblant d'être mort pour fuir la police, on parle du coach Colo. Aujourd'hui, le président de la Fédé Mougenge est en prison, quand même, mais la CAF est allée le voir pour lui donner un cadeau, un fardeau officiel avec son nom, et essayer d'interférer pour ses conditions de détention. L'enquête est au point mort, et attend qu'en fait, l'enquête de la Fédé, et en fait, ils attendent que Romain Molina leur apporte des preuves sur un plateau. Sauf que quand bien même on leur donne, ben en fait, ça sort pas, personne n'en parle dans les médias. D'après les témoignages recueillis par Romain Molina, le bout de la route dans ce réseau gabonais, ce sont des sacrifices humains et du trafic d'enfants comme esclaves sexuels. Il en reparlera plus tard. Il semble que Mandarano, dans le même genre, conservait les spermes des enfants classés dans des bocaux pour faire des incantations lors de cérémonies. Ça, c'est les témoignages. Allez, on va aux Comores, dans l'océan Indien, à côté de Mayotte. L'entraîneur de Elan Cup, le plus gros club des Comores, Youssouf Hamada Bachirou, alias Dakota, est accusé par plusieurs joueurs, notamment Khaled Simba, d'être un pédocriminel. À l'époque où Dakota a violé Khaled Simba, il avait 12 ans, le petit. Aujourd'hui, Khaled, il est adulte. Il avait déjà parlé et envoyé des mails aux journalistes locaux il y a 10 ans, donc dans les années 2010, et rien n'avait bougé. Sauf que quand il a vu que Dakota était de nouveau de retour aux Comores auprès de mineurs, Il a décidé d'y retourner malgré la difficulté d'être souvent seul face à une machine à broyer. Il a porté plainte aux Comores et en France où, pour l'instant, rien ne se passe. Enfin, surtout en France. À cause du tabou, il est le seul garçon à avoir osé parler, mais il y a plein d'autres victimes. Mais on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le tabou de l'homosexualité masculine. D'autres témoignages vont dans ce sens, accusant l'homme le plus influent du football comorien. Je cite. Après deux ou trois phrases, il a posé son bras sur ma cuisse, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Arrête, ne dis pas un mot, j'aime caresser, j'aime ça. À ce moment précis, dans ma tête, donc c'est Khaled qui parle, tout s'est effondré. J'étais coincé, je ne pouvais pas bouger, j'avais la tête ailleurs. Je pensais à ce que mon ami m'avait dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Donc son ami l'avait prévenu que c'était un pédophile. Il lui avait dit de pas faire copain avec lui. Il s'est approché de mon sexe et l'a touché, mais je me suis levé. Immédiatement, il m'a sauté dessus, il m'a forcé à rester dans le lit à nouveau, il a essayé de grimper sur moi, mais j'ai riposté. Cela n'a pas duré longtemps car son bras a été blessé. Il avait déjà une blessure, donc il a pu lui taper sur la blessure. C'est comme ça que je pouvais bouger et ouvrir la porte. Donc il a eu de la chance, j'ai couru et je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai eu la chance de m'échapper, mais cette expérience m'habite encore aujourd'hui. Fin de citation. Pour l'histoire, le jour où Khaled devait partir pour revenir en France, après avoir déposé plainte aux Comores, donc là, ces dernières années, Khaled a été, entre guillemets, carjacké par des gens qui savaient qui il était, qui savaient avec quelle voiture il roulait et où il résidait aux Comores, qui lui ont volé son argent et surtout tous ses documents pour pouvoir reprendre son avion. Finalement, il arrive à retourner en France. Un peu plus tard, il retourne plus tard aux Comores pour suivre son dossier avec l'avocat local. Et de nouveau, il est attaqué par les mêmes personnes et de la même manière. Mais cette fois, limite encore pire, puisqu'ils essayent de le faire tomber dans un ravin, comme dans les films de James Bond. Vous voyez, où la voiture pousse l'autre. Ils n'y arrivent pas. Finalement, ils s'arrêtent. Ils vont l'agresser, lui piquer tout et le menacer. Dakota, quant à lui, est resté 18 jours en détention, ce qui est sans précédent sur une affaire. Donc le mec, c'est quand même une affaire criminelle. Et sans même que les victimes aient été auditionnées par le juge d'instruction. Le gars, malgré ça, il reste que 18 jours en détention. Plusieurs victimes ont parlé suite à la plainte de Khaled. Aujourd'hui, ils sont trois à s'être groupés avec sa plainte. Et plein d'autres ont refusé de le faire, voyant la manière dont a été traité Dakota par le juge. Voilà, il voit bien que si le mec il sort au bout de 18 jours avec des accusations aussi graves, il y a peu de chances d'avoir gain de cause devant la justice. Une, entre guillemets, enquête de la Fédé a été ouverte. Le juge a envoyé ses conclusions à la Fédé après avoir entendu les plaignants. 6 mois plus tard, silence radio. On a appris après ça, par d'autres victimes, que d'autres coachs aux Comores sont aussi des prédateurs. Khaled est une troisième fois de retour aux Comores. Là, une bande de jeunes gars montés de Dakota, que Dakota ait monté la bande, se sont pointés au mariage d'un ami de Khaled auquel il assistait, et ils ont carrément gâché tout le mariage en insultant et en menaçant tout le monde de l'extérieur de l'endroit où ça se faisait. Fantastique. On retourne dans les Caraïbes, Barbade et Saint-Kitts, donc des petites îles. L'ancien directeur technique Ahmed Mohamed, donc c'est un ressortissant somalien, a été accusé de viol et d'agression sexuelle par 27 joueuses qui ont soutenu dans une lettre à la fédération une jeune fille de 18 ans qui a été violée par ce dernier. En effet, il disait qu'il voulait sa récompense, car il avait réussi à lui obtenir une bourse d'études à la Fédé aux USA et donc il l'a violée dans un hôtel. Le père d'une joueuse a aussi parlé sur une radio de Saint-Kitts pour dire que ce coach avait une relation avec une fille depuis qu'elle a 13 ans. Une relation durable. Donc, sous le coup de la loi. Il y avait déjà eu un scandale dans les médias en 2019, mais sans citer la personne concernée, et avait donné suite à 5 démissions au sein de la Fédé, dont Randy Harris, à la fois président de la Fédé de la Barbade, mais aussi de la Confédération Caraïbe et vice-président de la CONCACAF. Donc la CONCACAF, c'est donc le sous-ensemble de la FIFA sur Caraïbes, Amérique du Nord. Et Ahmed Mohamed est un grand ami de Randy Harris, qui le soutient évidemment. La fille en question a été menacée, on lui a menacé de lui retirer sa bourse si elle portait plainte. Le coach n'est finalement même pas viré, mais la Fédé lui fait un licenciement à l'amiable pour des soi-disant raisons familiales. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Quelques mois plus tard, Saint-Kitts et Nevis, une petite île à côté, annonce que ce dernier aurait été recruté pour les filles et les garçons recommandés par la Barbade. C'est quand même extraordinaire. Avec vraiment une lettre de recommandation de la Fédé de la Barbade. Et il le récupère. Donc Atiba Harris, le président de la Fédé de Saint-Kitts, a réagi dans une émission de radio en disant qu'il n'y a pas de problème, que ce coach est très bien, car il lui a été recommandé par Randy Harris, par la Fédé de la Barbade, par la CONCACAF et par la FIFA. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Ahmed Mohamed y est toujours en poste, au contact des mineurs. Voilà, c'est super. Allez, on change de région, on va en Mongolie. Depuis 2017, on parle de viol sur mineur, de chantage sexuel et de tabassage en règle, notamment sur la sélection des U15 féminines, donc moins de 15 ans. Tout a été couvert pendant de nombreuses années. Finalement, le cas d'un interprète prédateur a été condamné à 3 ans de prison en appel au lieu de 15 en première instance. Donc, quand même formidable, il prend 15 ans en première instance, il fait appel à plus que 3. Comme souvent les membres de FEDE, l'actuel président et ancien secrétaire général, donc Ulziku Shijir, sont des proches du président du pays, donc Ukaigin Kurelsuk, ce qui a produit des interférences politiques sur les dossiers de la justice, comme on peut dire pudiquement. En 2019, une coach japonaise présente sur place, Kawamoto Naoko, qui est venue pour coacher les petites de la Mongolie, en charge des U15, a témoigné qu'un collègue coach alcoolique, Ushral Saikan Bouivet Batar, agressait régulièrement les filles de 13-14 ans, et notamment durant un tournoi panasiatique qui s'est déroulé en Corée du Sud. Silence radio à la Fédé, le coach reste en place, et le président de la FIFA inaugure en grande pompe un projet en novembre à Ulaanbaatar. Super, donc Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. La vice-présidente de la Fédé, Asjargal Kasbat, qui était la destinataire de la lettre originale de Naoko, a plus tard reçu des prix pour le football féminin, qu'elle aide à développer dans son pays les petites filles qui jouent au foot, c'est formidable, émancipation, nanani, et oui, c'est formidable. Suite à un reportage dans la télé nationale, dans une télé nationale, Live TV, en décembre 2019, la Fédé a finalement suspendu, où il y a eu des témoignages de filles, a suspendu Bouvei Batar le lendemain en catastrophe. Plusieurs familles de joueuses évoquent des couvertures. Un autre coach a tenté de faire chanter la grand-mère d'une joueuse de 15 ans alors qu'elle était une des meilleures joueuses, et elle a été écartée de la sélection suite au refus de la grand-mère, donc de céder à autoriser entre guillemets le coach à la violer, quoi. Dans une ambiance locale où les seniors de la sélection nationale picolaient lors des soirées et s'amusaient à tabasser les U15, filles. Voilà, les filles sur les filles. Soi-disant, la FUFA n'est alertée qu'en 2020 en faisant suivre à la Confédération asiatique qui dit n'avoir aucun élément. Et rien ne se passe. Eh oui. Un an et demi plus tard, la suspension nationale de Bouvei Batar a été étendue pour 10 ans au niveau international sans même produire un communiqué. Donc c'est bien, tu prends des décisions de sanction, mais tu les dis pas. On attend que la FIFA ouvre une procédure pour sanctionner la Fédé mongole. Allez, on revient en Afrique centrale. Le Cameroun et notamment dans le handisport. On parle aussi d'abus dans le handisport avec ce témoignage terrible de viol raquette pour être sélectionné. Je cite: Il me jette sur le lit. J'essaye de m'en sortir, mais il utilise sa force jusqu'à ce qu'il me pénètre. J'ai les larmes dans mes yeux. Personne n'est là pour venir me sauver. Quand il a fini de faire de ses bêtises, tout ce que j'ai fait, c'est me redresser et espérer que je ne serai pas malade lorsque je ferai le test. Il parle de MST, évidemment. Tout ce que je souhaitais, mon Dieu, c'était de ne pas être malade après. Et également le sida, qui est un grand truc en Afrique, où voilà, moi on m'a dit qu'on pouvait attraper le sida en serrant la main, enfin bref. Diffusé sur Facebook par l'activiste en exil Nzui Manto, ce témoignage audio glaçant d'une ancienne athlète de l'équipe paralympique du Cameroun a suscité l'effroi le 29 octobre dernier. Surtout que l'homme directement mis en cause n'est autre que Hervé Guy Ngoyo Ngone, qui est le président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients physiques. Donc c'est le grand boss de la Fédé des sports, des handisports. Je cite, c'est terrible, mais c'est une réalité qu'on subit depuis une dizaine d'années, souffle Mimosette Ngamsi, athlète de powerlifting, donc un sport de force. Beaucoup de mes camarades ont subi ces attouchements. Si vous refusez, comme moi, vous êtes écarté des compétitions internationales. Les féminines seraient soumises à ce qu'elles décrivent comme un droit de cuissage, institutionnalisé par le président de la FESCADEP. Donc droit de cuissage, donc c'est une expression un peu galvaudée, mais voilà, pour dire qu'ils estiment qu'ils ont le droit de faire l'amour à qui ils veulent à partir du moment où ils ont du pouvoir sur eux. Voilà, parce que ça correspond pas à une vraie réalité historique du Moyen-Âge, voilà, mais je vous laisse chercher de votre côté. Est-ce que vous savez que Ngoyo m'a violé? Questionne brutalement une athlète suite au témoignage publié par l'activiste Nzui Manto. Beaucoup de femmes ont dû arrêter la pratique sportive à cause de ce système d'abus, s'énerve Francis Biwole Nkodo. Cela s'est passé principalement dans l'athlétisme. Dans une lettre adressée le 28 juin 2021 au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwelkombi, Le collectif des para-athlètes et des personnes handicapées au Cameroun et de la diaspora exige la dissolution du bureau exécutif du comité paralympique camerounais en mentionnant entre autres ce droit de cuissage qui, selon le contenu de ce courrier, sévirait depuis une décennie. Je cite, le président de la Fédé utilise les compétitions internationales pour son chantage, détaille une athlète désireuse de garder l'anonymat. Et il nous dit de coucher avec lui si on veut participer aux compétitions. Et si on refuse, on sera écarté. Il profite aussi des sportifs les plus précaires en leur faisant miroiter des avantages ou du matériel. Il utilise tous les moyens possibles pour nous mettre dans son lit. Fin de citation. Des plaintes ont été déposées, sans suite. Et la liste pourrait rapidement s'allonger à en croire plusieurs interlocuteurs œuvrant dans le milieu paralympique. On parle aussi d'une académie de foot pour jeunes à Bafoussam, dans notre pays Bamileke, où beaucoup d'enfants souffriraient depuis 20 ans. On a des témoignages, mais il n'y a toujours pas de plainte. Allez, on va en Afrique de l'Est, au Kenya. Et notamment, on s'intéresse au basket cette fois. Le basket kényan est aussi gangréné et institutionnalisé depuis des décennies. Tout commence avec une femme de 30 ans, ancienne joueuse de haut niveau, qui porte plainte contre le coach de la sélection nationale des U17, Philippe Onyango, pour des viols et du chantage sexuel alors qu'elles étaient adolescentes. Par ailleurs, ce monsieur était depuis 96 entraîneur de basket dans certains lycées, dans un grand club kényan, Port Authority, en plus d'une carrière de journaliste sportif très connue, et évidemment, il siégeait au comité exécutif de la Fédé. Il approche des filles en étant gentil pour instaurer un climat de confiance, puis l'isoler avec une nuit dans un hôtel lors d'un déplacement un peu plus loin de la capitale et en profiter pour violer la joueuse mineure. Donc ça, c'était son modus operandi. Criant au complot systématiquement et balançant les noms des filles dans les médias, il faisait aussi du chantage sexuel pour avoir une bourse universitaire de sport ou une place en sélection régionale ou nationale. Il fournissait également des filles à d'autres pontes de la fédération. D'autres coachs sont accusés, je cite, partout au Kenya, les joueuses de basket savent que ça existe, mais ils se taisent. Beaucoup de joueuses ont été violées, mais elles ne peuvent rien dire. Il y avait tellement de filles que je connais, même dans des grandes équipes, mais elles se taisent toutes. Et je pense qu'elles ont peur. Au Kenya, beaucoup de filles ont été violées. Donc, fin de citation, c'était la fille qui a parlé, la première. L'ONG Human Rights Watch a produit un rapport sur le sujet en lien avec ce témoignage. Une enquête de police est en cours et Philippe Onyango a été exclu de la fédération en attendant. Le président de la fédération actuelle aurait également poussé, trois autres joueuses se sont manifestées. Donc il aurait également poussé des filles à avorter. Trois autres joueuses se sont manifestées. Un journaliste a envoyé le dossier complet à la FIBA, la Fédération internationale de basket, donc un journaliste connu de la BBC ou du Guardian, et ils ont juste donné aucune réponse. Extraordinaire. Il existe des cabinets d'avocats spécialisés dans ces fameuses fausses enquêtes internes des fédérations internationales ou des fédérations nationales. Et ce monsieur s'appelle Richard McLaren. Et c'est vraiment son fonds de commerce, hein. Il est connu mondialement pour ça. C'est toujours à lui qu'on fait appel. Il est impliqué également dans le fait d'exclure la Russie des compétitions internationales pour des cas de dopage, notamment les JO de 2016. Ce dernier avait fait une enquête bâclée et à décharge sur le basket malien, à prix d'or, évidemment. On y reviendra. Et donc on va au Mali, dans le basket. Basket féminin malien est aussi moche, avec au moins 53 victimes recensées. Au moins une douzaine de personnes de la fédération ou dans des clubs sont accusées d'avoir violé des mineurs, dont certaines ont été forcées d'avorter. Les choses étaient publiques, se faisaient même jusque dans les boîtes de nuit, je parle pas des avortements, mais des relations avec les mineurs, devant tout le monde les soirs de fête de victoire. La question de la couverture de ce réseau par le président de la FIBA, Amané Niang, président de la Fédération malienne de 1999 à 2007, puis ministre des Sports de 2007 à 2011, et finalement, donc aujourd'hui, ce monsieur malien est devenu président de la Fédération internationale de basket. Pendant toute cette période, sévissait notamment Cheikh Oumar Sissoko, son grand ami qui faisait du chantage aux faveurs sexuelles pour jouer, être sélectionné, etc. Tout cela a perduré même après où le successeur à la présidence de la fédération est aussi accusé par des mineurs. De même, Amadou Bamba, coach des U19, aurait même agressé certaines de ses joueuses mineures en pleine compétition internationale. Cette situation était connue de la Fédé, notamment par le secrétaire général, et ce Bamba était maintenu dans ses fonctions alors que beaucoup de gens savaient ce qui se passait. Suite à l'enquête qui a été publiée dans le New York Times cette fois, Amané Niang, le président de la FIBA, s'est retiré le temps d'une enquête diligentée contre les abus sexuels sur mineurs notamment au sein de la Fédé de basket du Mali, donc depuis 2 décennies. Il nie les faits et dit attendre une enquête indépendante du comité éthique de la FIBA. Outre Amané Niang, accusé d'avoir couvert les abus, sept autres officiels maliens ont été suspendus, dont Amadou Bamba, le coach de l'équipe de 19. Ce dernier a été finalement écroué pour pédophilie et tentative de viol. Des associations sur place se bougent pour les victimes. On y parle aussi de nombreux coachs étrangers qui viennent au Mali pour effectuer du chantage sexuel, repérer et recruter des joueuses victimes. On peut notamment parler donc d'assauts locaux qui se bougent, mais plutôt envers et contre tous, et qui recueillent les témoignages et qui essayent d'aider les familles, de les protéger, de leur fournir des avocats. On peut citer Young Players Protection in Africa, donc Damar Maiga, ou l'AAAP de Papson et Tina. Donc Papson, c'est un ancien joueur pro. Le président, le secrétaire général, le vice-président de la Fédé, l'entraîneuse adjointe des U19 et Amadou Bamba ont été virés de la Fédé, et donc Bamba est en prison. L'ancien entraîneur est aussi impliqué, ainsi que l'ancien président de la Fédé. Toutes les filles qui ont parlé ont été sanctionnées et n'ont plus aucun espoir de jouer en équipe nationale. Et la Fédé laisse faire ça. On rajoutera, pour couronner le tout, l'intervention d'une ONG appelée Terre des Hommes, une ONG suisse a priori, qu'on avait déjà vu travailler à Haïti et avec la FIFA. Et cette ONG, elle a découragé les filles de parler, alors qu'elle devait théoriquement les aider dans leur démarche judiciaire. A priori, cette ONG a même fait fuir des informations à la Fédé quand elle était au contact des filles. Elle a été payée, cette ONG, par la FIBA, normalement pour effectuer une assistance juridique aux victimes, mais elle ne l'a pas fait. C'est-à-dire que les filles devaient être accompagnées d'avocats quand elles allaient faire leur déposition, ou, etc., ou leurs auditions avec le juge. Mais le jour venu, ben, il n'y avait pas d'avocat. Payé pas. La première fille qui a parlé n'est pas allée à la Coupe du Monde à cause de ça. Elle a été traitée publiquement de menteuse dans les médias par Jean-Claude Sidibé, ancien ministre des Sports et actuel président de la Fédé, et toute sa famille a été menacée. Évidemment, toute la famille de la fille, pas de Sidibé. Soi-disant qu'elle avait une blessure au genou, ce qui était faux. Et là, l'ONG, elle n'a pas voulu payer la somme pour l'expertise médicale, pour qu'elle soit sélectionnée quand même, alors que ça coûtait 100 euros, qui finalement a dû être payé par les enquêteurs eux-mêmes des journaux occidentaux, qui ont envoyé de l'argent de Londres à Bamako pour qu'elle puisse avoir son expertise médicale. Pire que ça, Terre des Hommes a employé pour défendre les filles une avocate, donc qui ne se présentait pas le jour où il fallait, qui a été formée au cabinet même d'avocat de Jean-Claude Sidibé, et qui était très proche de lui. On retrouve également le fameux Richard McLaren qui nous a pondu un rapport d'enquête de 150 pages. Il y a également Amadou Babayoko, alias Jackson, un soi-disant instructeur FIBA, qui viole les filles, qui les accompagne à toutes les compétitions internationales, alors qu'il n'existe nulle part dans les organigrammes, ni de la FIBA, ni de la FEDE, ni du ministère. La FIBA, elle a été mise au courant de cette situation, lors d'un entretien qu'elle a eu avec une des filles qui parlait, et cela n'est même pas présent dans le rapport de McLaren. Ça a été squeezé. Les problèmes continuent aujourd'hui avec les U18, et devant la situation, plus personne ne veut plus parler. Alors, on signale, il suffirait qu'un joueur NBA connu parle de ses affaires, et tout cela exploserait médiatiquement. Mais hélas, c'est toujours un peu l'absence au niveau des gens connus. Argentine. Des filles avaient porté plainte contre le coach des U15 de l'équipe nationale de football qui leur demandait des photos nues, les menaçait de les violer et les menaçait de les sodomiser dans les vestiaires ou sous les douches. Il était convenu, donc quand les journalistes ont travaillé avec la FIFA, qu'elles allaient pouvoir témoigner devant le comité d'éthique de la FIFA, mais en échange que le nom de l'abuseur ne sortirait pas publiquement. Alors ça, la FIFA a négocié ça. Bon, on se demande bien pourquoi. Résultat des courses, elles ont bien été entendues, mais la FIFA a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, alors que les 5-6 gamines disent toute la même chose. Donc, on parle des U15, hein, c'est des gamines de moins de 15 ans, hein, 13-14 ans. Et puis qu'est-ce qu'a fait la FIFA? Eh bien, elle a balancé publiquement le nom de toutes les gamines qui aujourd'hui sont toutes menacées avec leur famille. Super! On a appris plus tard qu'un membre très haut placé de la FIFA, quand il va à Buenos Aires, en fait, il commande carrément les prostituées mineures à la Fédé argentine avant d'arriver. Et c'est cette personne qui se vante d'être un grand croyant dans le Christ et la famille qui en fait est intervenue et a fait capoter l'affaire sur ce dossier. Voilà, ça c'est les témoignages qu'on a, que Romain Molina a recueillis. Rapidement, on peut citer la Guinée, qui est un pays d'Afrique. Une fille mineure en sélection a été forcée d'avorter et après elle a dû s'exiler et on l'a carrément retrouvée dans un camp de réfugiés au Libéria, un pays voisin qui a été longtemps en guerre. L'île Maurice. Alors, des caméras ont été retrouvées dans les toilettes et vestiaires des femmes du siège de la Fédé de football. Suite au témoignage, la fédération, elle n'a rien fait pendant près de 10 jours. Devant ce silence, l'employée qui est allée porter plainte. Une réunion d'urgence se tient, teinté de menaces à peine voilées, et finalement le secrétaire général Didier Pragassa démissionne, accusé d'être un prédateur. Ces toilettes, on signale, sont également utilisées en fait par l'équipe des U15 et des U17 féminines. Un autre employé, Barlène Senghayen, dénonce les agissements de la fédération et se désolidarise immédiatement par une lettre publique. Une enquête de police et de la Fédé en interne intervient. Cela vient porter un coup de grâce à la présidence de Samir Sobha, qui a été émaillée de différents scandales, des scandales avec des équipementiers, avec Crystal Valley, des malversations et des facturations illégales, avec notamment son collègue Ahmed Yahia, élu deuxième vice-président de la Fédération africaine, donc de la Confédération, de la CAF. À suivre, Zambie. Plusieurs individus employés de la Fédé ont commis des abus sexuels sur mineurs, notamment Kaluba Kwanga, le coach des filles U17. Une victime l'incriminant d'avoir mis enceinte une joueuse de 15 ans en 2013. Il témoigne, je cite, Ils sont plusieurs, ils profitent de notre statut social. La majorité des joueuses viennent de milieux défavorisés. Jouer pour l'équipe nationale nous donne la possibilité de nous sortir de la misère. Si nous ne jouons pas, il sera impossible de faire carrière. Et ils profitent de ça. Employé par une ONG locale, le fameux Kwanga sévissait dans les quartiers défavorisés de Lusaka, la capitale. L'ONG, c'était la BUSA, la Baoleni United Sport Academy, qui permet à des filles et des garçons de 4 à 20 ans d'avoir des activités sportives régulières où il a eu plusieurs relations avec des mineurs. Et ça permet de faire du repérage. Kwanga est aussi accusé d'avoir favorisé l'accès à l'équipe nationale aux joueuses issues de ce programme. Sport News Africa a également recueilli le témoignage d'une autre personne employée de la Fédé, pleurant les multiples abus dont elle a été témoin. Je cite, C'est endémique, ils ont laissé un système se mettre en place sans rien dire. Alors non, c'est pas endémique, c'est partout dans le monde, mais effectivement, c'est très développé dans son pays. D'autres membres de son staff en U17 sont aussi suspectés de l'avoir assisté et d'avoir abusé des mineurs au sein de la sélection. Il semblerait qu'une fille mineure soit carrément morte suite à un avortement forcé par les membres de la fédé concernée. Alors un avortement artisanal à base d'aiguillettes tricotées, si vous voyez ce que je veux dire. Il semble qu'il en soit de même à la fédé de basket. Donc il y a des témoignages qui vont dans ce sens en Zambie. Allez, on repasse en Amérique du Sud avec l'arbitrage en zone CONCACAF, Amérique du Nord-Caraïbe. Un réseau de 7 à 8 officiels abuseurs est en place au niveau de l'arbitrage en zone CONCACAF dans les pays suivants où clairement, tout le monde le sait, il faut coucher pour être bien noté et monter dans l'arbitrage pro. Donc ça concerne Costa Rica, Panama, Jamaïque, Haïti, Guatemala, Salvador, Nicaragua, USA, Canada. De ce qu'on sait. Suite à des témoignages de chantage sexuel sur des arbitres majeures féminines, Ronald Gutiérrez, Costa Rica, donc 2011-2021, est un des plus hauts officiels des arbitres seniors de la CONCACAF et ami de Rosny Grant d'Haïti, qu'on retrouve. Et il n'a même pas été suspendu, mais juste écarté pour, je cite, renouveler le staff avec des gens plus jeunes. Vous voyez, on trouve des petites excuses. Je cite, Grant était presque intouchable parce qu'il offrait des filles à tellement d'officiels. S'il parle, nous sommes finis, confie un membre du comité officiel de l'arbitrage au siège de la FIFA à Zurich en off. En 2010, Ronald Gutiérrez était au Guatemala pour superviser le championnat féminin CONCACAF U20, qui a également servi de qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne plus tard cette année-là. J'ai officié à ce tournoi, je me souviens à une arbitre internationale de la CONCACAF, je comprends comment le système fonctionnait là-bas. C'est arrivé dans l'après-midi, je parlais avec une autre femme qui arbitrait avec moi, elle m'a demandé d'aller dans sa chambre pour regarder un film. Je me souviens, elle me proposait, c'était Avatar. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Ronald Gutiérrez, nu dans le lit, enfin en train de baiser, une arbitre du Panama. Ces deux femmes arbitres, donc celle qui était déjà sous Gutiérrez et celle qui avait attiré cette femme, ces deux femmes arbitres m'ont dit de les rejoindre. J'ai refusé, j'ai tout de suite fermé la porte. Voilà. Donc vous supposez que cet arbitre, évidemment, n'a pas été retenu. Le comité éthique de la FIFA a été saisi. Voilà, on attend toujours. Gutiérrez se déclare fier du travail accompli durant ces 15 dernières années. Il voit pas où est le problème et puis il nie évidemment. Alors Gutiérrez, il avait un copain qui, lui, est du Salvador. El Salvador, un petit pays, pareil, de l'Afrique, de l'Amérique centrale. Rodolfo Cibrian a quant à lui été publiquement accusé par 6 victimes de ses harcèlements et chantages sexuels en 2017. Notamment Vilma Montes dénonce Cibrian à la Fédé et rien ne se passe. 6 mois plus tard, elle fait une action en justice. 18 mois plus tard, elle retire sa plainte, malade et épuisée et en dépression. Cibrian est plus que jamais l'arbitre de référence du Salvador. Le cas de Vilma Montes était épouvantable, elle n'a obtenu aucun soutien de la Fédé, ils ont protégé Cibrian, qui est maintenant de retour à la Fédé, la FESFUT. Ils en sont si fiers, ça me rend malade. Donc ça, c'était une journaliste qui déclare ça. Dans le même pays, en novembre 2019, plusieurs joueuses de l'équipe nationale accusent le coach Elmer Guidos et deux membres de son staff, David Hernandez et Carlos Cortés, de harcèlement sexuel et de chantage sexuel pour être sélectionnées. En décembre 2019, deux femmes coachs en formation accusent quatre officiels de la Fédé, Ricardo Alvarado, Franco Rodriguez, Emerson Vélez et Nelson Chicas. Vélez passa 3 jours en prison et 2 ans et demi plus tard, aucune sanction n'a été prise. Les deux femmes ont été écartées du programme de formation d'entraîneur, vous pensez bien, et lors d'une réunion, c'est hallucinant, et non, une autre affaire, lors d'une réunion à la Fédé, 13 responsables masculins au sein de la Fédé ont voté et écrit des commentaires sur un papier pour savoir quel est le type d'acte sexuel qu'ils souhaitaient obtenir en échange du fait de coacher une équipe féminine. Ça, c'est des petits jeux entre eux. Cette preuve de quoi écrite qui a été récupérée a été montrée à la Fédé, mais sans conséquence. À propos du décédé José Carlos Ortiz Cardoza, ancien membre de la prestigieuse commission des arbitres de la FIFA, il s'intéressait aux arbitres masculins, lui, confie deux personnes à Josimar qui ont reçu des propositions sexuelles en échange d'une promotion dans leur carrière. Au total, ce sont 8 officiels qui ont été accusés sur les 5 dernières années, y compris des femmes. Rapidement, au Guyana, petit état du nord-est de l'Amérique du Sud, la Fédé a viré Stanley Lancaster, chef des arbitres, pour harcèlement sexuel. L'Islande. En Islande, un pays qui semble au moins fonctionner un peu. Donc, voilà, c'est pas pour dire que c'est parfait, mais imaginez ce qui s'est passé là-bas. Tout le comité exécutif de la Fédé a démissionné suite aux révélations de l'étouffement des scandales sexuels au sein du football islandais. Une femme de 25 ans avait déclaré à la télévision avoir été harcelée et agressée sexuellement par un joueur de l'équipe nationale en boîte de nuit en septembre 2017. Le joueur a avoué, il s'est excusé de ne pas avoir eu un comportement exemplaire et il a payé une compensation financière. La Fédé disait ne pas être au courant alors qu'en fait elle avait été destinataire de nombreux mails et qu'il y avait des témoignages et des preuves et du coup tout le comité exécutif a démissionné. Vous voyez? Donc comparez ça aux autres pays, comparez ça à la France, enfin c'est hallucinant. Angleterre. De nombreux cas ont été révélés, notamment l'affaire Barry Bennell. Ces dernières années, la Fédé a mis en place une commission spéciale, donc je vous renvoie au réseau anglais, Jimmy Savile, c'était dans la même veine. Voilà, et je vous ai cité ce cas-là, il y en a d'autres. Allez, pour conclure. Donc déjà, les réactions de la FIFA. Donc en gros, le comité d'éthique de la FIFA, quand on regarde un peu comment ça fonctionne, en fait, c'est du genre, quand ils interrogent les victimes, souvent mineures, en fait, c'est carrément, ils traumatisent les gamins. Et en fait, c'est des interrogatoires à décharge, quoi. À décharge pour faire en sorte que le gamin se taise ou pour lui dire, mais t'as des preuves, nanani, nanana. La FIFA soutient systématiquement ses membres, quitte même à tenter d'interférer dans les procédures judiciaires en cours à l'intérieur des États souverains. Mais la FIFA, quand même, sentant qu'il fallait réagir, il y a quand même eu beaucoup de scandales grâce à Romain ces dernières années, a créé une commission spéciale sur les abus sexuels en partenariat avec une branche de l'ONU. Wouh! Romain Molina, donc, y a témoigné au départ quand ça s'est formé. Mais dès qu'on allait sur les gros pays, entre guillemets, alors on lui faisait comprendre que, donc, type Argentine-France, on lui faisait comprendre que il y a des polices fonctionnelles dans ces pays-là et que c'est pas la peine que la FIFA y agisse. Ah ben c'est formidable ça, tu vois. Il y a des pays qu'on considère que les États sont en faillite, donc là la FIFA devrait faire quelque chose pour essayer de nettoyer les écuries d'Augias. Mais non, les pays riches, là, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est bien, évidemment. Comme en France. On connaît bien cette technique qui permet de drainer les témoignages, de les trier en fonction de leur impact potentiel sur la FIFA et de les gérer au mieux, avec des sanctions pour les petites fédés et on étouffe pour les grosses. Voilà, donc on a ça dans différents pays, notamment en France, on a des ONG qui jouent ce rôle-là, qui ont pignon sur rue, qui passent en permanence dans les médias de protection de l'enfance, et puis comme ça permet de drainer les dossiers vers eux, et puis après, soit ils font rien, soit ils s'occupent des dossiers qui pourraient mettre en danger certaines personnes. Ça permet de se redorer le blason, à moindre frais, et en fait, ça permet de canaliser les victimes. Et oui, si on sait qu'il y a quelque chose qui existe comme ça, on n'ira plus voir Romain Molina. Donc je vous ai mis une petite photo du fameux Gianni Infantino, je vous laisserai regarder son pédigré avant d'être président de la FIFA, et de Ghali Wali, la directrice donc de l'organisme des Nations Unies, qui a eu aussi plein de problèmes de pédophilie, avec notamment les militaires, les casques bleus, etc., sur différentes missions humanitaires. Je vous laisse regarder en refaisant des recherches sur notre site. Réaction des médias et des parlementaires. Hormis quelques médias internationaux cités plus haut, États-Unis, Norvège, Angleterre, Panafrique, personne dans le milieu du journalisme sportif ne relaye ces sujets, alors que tout le monde sait. Je cite Romain, c'est vrai, j'embête tout le monde. Dans le foot, on peut violer des gamines tranquilles, j'aurais dû le savoir, dit-il et conclut-il ironiquement. Romain Molina, un peu dépité d'être si peu relayé par ses confrères français ou internationaux, ou encore par des soi-disant députés autoproclamés défenseurs du petit peuple, mais qui ne mettent jamais les choses devant l'Assemblée, et même par des joueurs connus ou des anciens joueurs, qui pourraient utiliser les réseaux sociaux pour appuyer les choses médiatiquement. Et les témoignages affluent vers Romain Molina d'un nombre toujours plus grand de fédérations. Donc là, je cite des fédérations qui n'ont pas été traitées dans cet article, mais où Romain Molina a des témoignages et c'est des affaires en cours. Malte, Roumanie, Italie, Maroc, Algérie, Tunisie, Botswana, Lesotho, Népal, Cambodge, Laos, Indonésie, Colombie, Brésil, Venezuela, Honduras, Jamaïque, Guatemala, Nicaragua, USA, Canada, Tchad, Liban, Madagascar, Inde, etc. Et encore, la barrière de la langue l'empêche beaucoup d'avoir des choses sur les cas qui se situeraient en Asie. Il y a eu aussi de nombreuses tentatives d'infiltration, de faux témoignages et de cyberharcèlement auprès de Romain depuis qu'il commence à avoir un écho médiatique, et ses confrères, et vers lui et ses confrères, afin de tenter de les décrédibiliser. Une enquête en cours en interne au niveau de la FIFPro, dont il a eu vent, estime à plus de 50% les fédés concernés par les abus sexuels sur mineurs dans le foot féminin, et voire dans certaines zones 80%, et ça c'est uniquement ce qu'on sait. La question n'est pas quelle fédération est touchée, mais quelle fédération n'est pas touchée. En fait, maintenant, ils réfléchissent à l'inverse, avec notamment Cat Craig. Le point de départ, c'est pas de se dire, c'est de se dire justement que ça existe dans toutes les fédérations et qu'il faut trouver des mécanismes généralisables qui permettent d'empêcher et de verrouiller ces abus. On finira par une phrase qui me paraît emblématique aussi du genre d'escroquerie mentale qu'on met dans la tête des gens, que Romain a dit. Il dit: la promotion du football féminin par la FIFA à l'échelle mondiale, vu l'ensemble des pervers qui occupent les fédérations, en fait c'est juste une immense boucherie. Évidemment, sous couvert d'émancipation et de féminisme et compagnie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, nous essaierons de compléter cet article au fur et à mesure des révélations, mais il y a tellement de fédérations, tellement d'affaires. Voilà, on essaiera de suivre Romain dans ce qu'il fait. Soutenez-le si vous pouvez, achetez-lui ses livres, envoyez-lui de l'argent. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le wanted pédo. Romain, c'est le wanted pédo des fédérations internationales de sport. Il se concentre pas mal sur le foot et le basket parce que c'est des sports qu'il aime beaucoup, mais vous le savez, il y a eu plein d'autres scandales. En France notamment, il y a eu la natation, il y a eu le patinage, enfin voilà. Et en fait, on sait très bien que ça risque d'être le cas dans énormément de fédérations. Donc vivement que la parole se libère dans tous ces sports, et vivement que les fédérations, mais surtout l'État et le politique et les ministères se saisissent des choses pour mettre des vrais verrous, et ça bougera qu'avec l'opinion publique, évidemment. Voilà. Honneur, force et courage, on lâche rien. L'équipe Wanted Pedo.